Donc, vous avez donc suivi avec nous en direct la conférence de presse de Clémence Meillard, la procureure de Auch. Elle a fait le point sur les investigations concernant la disparition de Liana. Et surtout, elle a maintenant ouvert le dossier du suspect numéro 1. Et c'est justement avec Nicolas Dumas qu'on va en parler. Il est au tribunal judiciaire d'Auch parce qu'il y a toujours les recherches concernant Liana. Mais cet homme, malheureusement, est connu pour d'autres dossiers, Nicolas.
Effectivement, plus le passé judiciaire de Jérôme Barella est dévoilé, plus son profil semble inquiétant, alors qu'il est effectivement le principal suspect dans la disparition vendredi dernier de Liana, âgée de 11 ans. La première trace judiciaire remonte ici au tribunal d'Auch. En 2017, le père de famille aurait entretenu une relation avec une lycéenne de 17 ans qui aurait été consentie selon les mots de l'adolescente. La procédure est classée sans suite en 2018 et la procureure de la République détaille le reste des affaires qui sont... Je vous propose de l'écouter.
Trois procédures impliquant le mise en examen ont été identifiées par mon parquet. Il a été tout d'abord retrouvé trace d'un renseignement judiciaire établi par la gendarmerie en décembre 2017. Une procédure le mettant en cause a été reçue au parquet d'Auch en janvier 2024. J'en arrive à la procédure qui était en cours au moment de la disparition de Liana. Cette procédure a été initiée en août 2025, le 22 août 2025, par le dépôt de plainte de la mère d'une mineure née en 2014.
Elle a précisé que des actes complémentaires sur cette troisième plainte avaient été demandés avec pour observation la mise en garde à vue du suspect à la fin de l'enquête. Donc la procureure de la République d'Auch a également précisé qu'une quatrième plainte a été déposée ce matin, mais qu'elle n'avait pas d'éléments la concernant. Les enquêtes vont se poursuivre, a précisé la procureure, et que le parquet va procéder sans doute à un regroupement de ces affaires et réexaminer celles qui ont été classées sans suite.
Nicolas Dumas avec Lénie Bocorny en direct du tribunal judiciaire d'Auch.
Pauline Rovna, cette affaire concernant la disparition de Liana, qui a disparu il y a 6 jours, cet homme, Jérôme Barella, elle prend une autre dimension depuis ce que nous a annoncé tout à l'heure la procureure, révélé.
À l'énoncé de tous les dossiers, moi j'ai trouvé ça absolument vertigineux. Il y en a trois anciens dossiers qu'elle a détaillés avec une grande précision. Et elle a également annoncé qu'il y a une nouvelle plainte qui a été déposée ce matin par un père de famille dans des conditions similaires pour viol sur mineur. On en saura plus dans quelques instants. Elle nous dit aussi qu'il y a un directeur d'établissement qui l'a contacté. On avait donné cette information avec Véronique Fèvre. Il avait été licencié d'un établissement scolaire parce qu'il avait eu une relation dite inappropriée avec une lycéenne. Donc il faudra voir s'il y a eu un signalement. Mais combien de victimes? Parce que là, on en a trois anciennes, on en a une nouvelle. Mais quand son téléphone va être saisi par les enquêteurs, qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans le téléphone de ce Jérôme Barella? Est-ce qu'il y a d'autres dossiers en cours? Et c'est là où il va y avoir peut-être d'autres.
Oui, mais il n'y avait pas de condamnation.
C'est ça.
Il n'a pas de casier judiciaire. Pourquoi? Parce que l'infraction est insuffisamment caractérisée, nous dit la procureure. Parce que sur le premier renseignement judiciaire, la relation était consentie et la jeune femme avait 17 ans, c'est classé. La deuxième, il n'y a pas suffisamment de caractérisation, c'est classé. La troisième, elle se perd dans les limbes des parquets et des services.
Elle est en cours.
Il était prévu qu'il soit auditionné et placé en garde à vue. Trop tard.
La quatrième, Liana a disparu. Et à l'occasion de la quatrième, on apprend que un directeur d'établissement l'avait viré parce qu'il avait un comportement inapproprié avec une élève. Mais là encore,
à chaque fois, quand même, jamais de condamnation, mais à chaque fois, les faits qu'on pourrait lui reprocher sont de plus en plus graves, j'ai envie de dire, puisque le premier fait en 2017, c'est une relation, il est adulte avec une jeune femme de 17 ans. Ensuite, on parle d'agression et aujourd'hui, on est sur la disparition d'une petite fille de 12 ans depuis 6 jours.
On tombe toujours sur les mêmes ressorts. Ce type-là prend de l'assurance. Il n'y a pas de réponse judiciaire, ou en tout cas, il y a une réponse judiciaire, c'est un classement sans suite. Et puis, il s'installe confortablement dans cette vie avec sa femme, ses enfants, les soirées pyjama. Et vous allez voir que, alors ça, je vous fiche mon billet, que dans les jours qui viennent, il y a d'autres parents qui vont dire, des parents dont les gosses sont allés à des soirées pyjama chez eux, qui vont dire, Alors là, on vient de découvrir quelque chose.
Il était
préféré de chatouille. Parce que notre gamine n'avait plus le même comportement depuis qu'elle allait chez
lui. De chatouille, pardon.
Pour les enfants, chatouille. Oui, chatouille. Mais sous le vocable chatouille, je parle sous le contrôle de Johanna, on peut tout faire.
C'est pour ça que ça permet de revenir sur cet élément.
Ça fait froid dans le dos, ça fait écho, je crois, au livre et au film de Andrea Bescon. Sur les chatouilles, bah oui, c'est toujours notre petit secret, des chatouilles, des câlins, t'es ma préférée. Mais vous voyez comment la justice bénéficie aux agresseurs. Le temps long, l'impunité renforce l'agresseur.
Des problèmes de procédure parfois.
Voilà. Et de l'autre côté, des victimes. Les victimes, elles se murent dans un silence, elles sont détruites peu à peu. Il y a 50% des victimes qui feront des tentatives de suicide, 40% qui auront des addictions, des troubles de la sexualité, des troubles du comportement alimentaire. C'est un ravage pour la santé de ces victimes qui ne seront parfois jamais entendues.
Nous sommes avec une avocate pénaliste qui intervient dans des dossiers de pédocriminalité, Juliette Chappelle. Quel est votre regard sur ce qu'on apprend ce soir? Cet homme était finalement très connu de la justice, mais jamais inquiété. On est face, selon vous, à un prédateur?
Oui. C'est toujours les mêmes mécanismes dans les affaires de pédocriminalité, c'est-à-dire que c'est pas des signes avant-coureurs, on a des procédures qui sont complètes, mais on ne croit pas les enfants. C'est jamais suffisamment, c'est pas suffisamment grave, on n'a pas suffisamment de traces, mais on a la parole de cet enfant.
Donc pour vous, le problème, c'est la prise en compte de la parole de l'enfant.
Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est la prise en compte de la parole des enfants. On ne les croit pas, et des adolescents, et des adolescentes. On ne les croit pas systématiquement, et des victimes de manière générale, systématiquement, c'est mis en doute. Et après, il y a un autre problème qui est un dysfonctionnement général, et on le voit, nous, dans les dossiers. Les dossiers en matière de violence sexuelle sur les enfants, à mon cabinet, on passe environ une à deux journées par semaine à relancer. À envoyer des mails aux gendarmeries, au parquet, au commissariat.
Parce que ce n'est pas prioritaire ?
Parce que ce n'est pas prioritaire, parce que la priorité, ce sera toujours le meurtre en flagrant délit, le viol, les stupes, le viol où on vient de choper la personne qui est mise en cause par la victime.
C'est-à-dire que quand il n'y a pas de flagrance, c'est pas prioritaire.
Ça passe après et c'est des heures et des heures de relance. Et parfois, nous, on a des dossiers avec des enfants qui ont parlé, qui ont été précis, qui ont mis des mots sur ce qu'ils ont vécu comme violence sexuelle et ça n'avance pas.
Non mais pardon, moi je voudrais revenir sur cette affaire parce que je la trouve sidérante, celle qui a été révélée par le service de justice BFM TV hier, la petite Rosa donc qui raconte à sa mère ce que cet homme lui aurait fait subir. Dans un premier temps, il n'y a pas de plainte, puis finalement quand même la mère va porter plainte, et ensuite c'est les parquets qui savent qui doit se saisir de...
Donc il y a le... Si, ils savent, mais ça prend du temps.
Alors ça prend du temps, alors c'est pas Hoche et Toulouse, ils sont à quelques kilomètres, mais ça prend 5 mois déjà. Et puis ensuite, on confie ça à une gendarmerie, et là encore, plusieurs mois où il ne se passe rien, en tout cas il n'est pas entendu lui directement, et on aboutit au mois de juin et la disparition de la petite Liana. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent ou pas?
Oui, hélas, oui, ça arrive souvent parce que c'est un temps trop long, parce que ce n'est pas suffisamment efficace. Alors, on peut parler des moyens, mais je pense qu'on ne peut pas toujours tout mettre sur les moyens de la justice et des services d'enquête. C'est trop long. Là, je pense que les enquêteurs se disent, bon, la fille n'est plus en contact avec l'agresseur, donc ce n'est plus une priorité. Oui, sauf qu'un pédocriminel, juste ce point...
est un récidiviste.
Voilà, il ne s'arrête pas.
Oui, mais il n'a jamais été condamné.
Il est pédophile, on le sait. Oui, il sort,
d'accord, mais
il
sauf que ça ne ressort peut-être pas suffisamment dans les dossiers, parce qu'il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu de fait caractérisé.
Mais c'est quand même dans les dossiers de la justice. Alors, il n'y a pas de condamnation. La justice doute, j'ai envie de dire. Tant mieux, si elle doute, elle ne condamne pas. C'est une bonne chose.
Mais le doute, ne profite pas aux victimes potentielles.
Alors, le doute, là, ne profite pas aux victimes. Mais c'est encore une fois la question de la prise en compte de la parole de l'enfant. Mais ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas besoin d'une condamnation. Quand vous avez déjà un renseignement judiciaire, une plainte, une deuxième plainte, certes peut-être classée sans suite, mais pour infraction insuffisamment caractérisée, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé.
Et quand la dernière plainte arrive, il faut peut-être accélérer.
Voilà, quand la dernière arrive, on y va là.
Comment est-ce qu'on peut les mettre en état de ne pas nuire à la société? De nuire à la société, pardon. Comment on peut les empêcher dans
si on l'avait pas, si on gardait vu peut-être plus tôt dans l'affaire de la petite Rosa,
on ne serait pas tous là aujourd'hui. Mais vous imaginez qu'il n'y a même pas eu de signalement au CRIP, au centre de recueil des informations préoccupantes. D'ailleurs, on ne s'est même pas dit qu'il était peut-être préoccupant. On n'en est même pas là.
Il cherchait toujours la présence des enfants. Il traînait autour du collège. Il y a le prof de sport de Jérôme Barella qui dit lui-même, nous trouvions qu'il passait trop de temps avec les enfants.
Il avait ses deux filles à la maison. Ils ont 11 ans et 7 ans.
Quand on met un bracelet électronique à quelqu'un comme lui, bracelet électronique avec GPS, pour un prédateur sexuel, qu'est-ce qu'on empêche d'approcher dans une ville s'il est à Angers, pas sortir d'Angers, les aires de jeu, les écoles maternelles, et tous ces endroits sont répertoriés, et s'il s'en approche avec son GPS, on sait très bien où il va les chercher. Ces gens-là, c'est des prédateurs, ouais. On l'a déjà dit. Ces gens-là, ce sont des malades. Ce sont des malades. Non. C'est installé dans leur tête. Moi, je pense qu'ils sont malades. Et ce type-là.
Pourquoi vous dites non? Attendez, parce que Johanna, il dit non.
Mais après, je ne pourrai pas finir
ma phrase. Finissez. Alors, je finis. Finissez demi, pardon.
Donc, je dis juste, ces gens-là, ils sont focus. Ce type, si c'est bien lui, il est présumé innocent.
Il est dans une obsession.
Il est focus sur Liana. D'accord? Donc,
il lui apporte les goûters. Il apporte les goûters.
Il la reçoit chez sa fille. Il la reçoit chez lui pour une soirée pyjama. Qui a organisé la soirée pyjama? Est-ce qu'il n'a pas dit à sa fille, demande à ta copine de venir, ou à sa femme, demande à inviter la petite Liana, parle-en à ses parents? Le mec, il est focus sur Liana.
Et après cette soirée pyjama qui avait mal tourné, les parents de Liana avaient coupé
tout contact. On veut plus entendre parler de
cette famille. Ils ne savaient pas visiblement que la fille était.
Mais c'est quand même lui qui, à 15h05, devant le lycée Hubert Reeve, est dans sa voiture. Et on le voit partir avec la gamine.
Mais ce qui est intéressant.
Le mec, il est focus sur son objectif.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il nie. Pour le mode opératoire et pour la psychologie, au départ, il nie. Et c'est simplement parce qu'on va lui dire qu'il y a de la vidéosurveillance et qu'on l'a vu dans la voiture à 15h05, qui va être obligé de dire que oui, il l'a bien pris en voiture et qu'il a bien fait le trajet.
Ça c'est la matrice classique.
Alors, t'es pas d'accord pourquoi?
Non, d'abord par
rapport pourquoi?
Sur le terme de malade.
Non, mais là, si on rajoute les pauvres, c'est des malades. Après,
il a pas dit les pauvres.
C'est des malades. Après, attention, la présomption d'innocence. Attention, la justice doit faire son travail. Attention, faut pas faire de procès médiatique. Attention, maintenant, il est malade. Non, la violence, la prédation, c'est une décision, c'est un choix. D'accord, oui. C'est du ressort de la personnalité, du parcours personnel. Il est pas, c'est pas une maladie en fait de
violer les enfants. Et vouloir faire ça avec des enfants de 9 ans, 11 ans, 7 ans.
C'est de la perversion. Mais la perversion, c'est pas une maladie. D'accord? Il sait ce qu'il fait, c'est un choix la violence. On décide d'y aller ou on décide de s'empêcher. C'est des gens qui s'autorisent. Le seul moyen de les stopper, c'est qu'ils soient stoppés par la justice. Alors, sinon, ils ne s'arrêteront jamais.
Dans tous
ils
les cas,
ne sont pas malades.
Ce soir, la procureure a révélé sur BFM TV l'ouverture de plusieurs dossiers, qu'on a affaire à un homme qui, avec Liana, n'en est pas à son coup d'essai, malheureusement. Et vous imaginez le choc à Florence, la commune où aujourd'hui on cherche toujours Liana. D'ailleurs, on va y retrouver Isor de la Gorce en direct pour BFM TV, parce que les habitants n'en reviennent pas, Isor.
Effectivement, ces révélations ont jeté un grand froid dans la commune. On va en discuter tout de suite avec Océane, qui habite à Florence. Comment vous vous êtes sentie, vous, quand vous avez appris la disparition de Liana?
C'est un peu triste parce qu'on voit ça qu'à la télé. Et puis, Florence, c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Moi qui ai des enfants, ça fait peur, honnêtement. Maintenant, ils sont collés. Je les laisse même plus partir tout seul devant. J'ai trop peur. Même moi, je vais au travail, j'ai peur. On ne sait pas. C'est triste, quoi. On fait tout pour la retrouver. On soutient la famille, on aide comme on peut, quoi.
Et alors, la procureure d'Auch a annoncé que le principal suspect, Jérôme Barella, était visé par 3 procédures, notamment une nouvelle plainte pour viol sur mineur qui a été déposée mercredi. Comment est-ce que vous réagissez à ces révélations?
Je pense que moi, il aurait écouté la plainte de la première plainte. Je pense qu'on n'en serait pas arrivé là, quoi. C'est mon point de vue. Après, est-ce qu'ils n'ont pas cru la fille? Je sais pas. Je pense pas que la fille ait réinventé ça non plus. Donc, je pense que... Ça va, il y a d'autres trucs qui vont sortir, je pense. Donc,
De savoir que du coup, dans votre ville, il y avait une personne qui a été visée depuis longtemps par des procédures et que rien n'a été fait jusque-là. Comment est-ce que vous sentez par rapport à ça?
Ça fait peur, quoi. On vit plus tranquille. On vit plus tranquille. Moi, je sors même pas depuis ça. Je sors plus de chez moi. Même mes gosses. Je reste en bas de ma cour. J'ai trop peur. Déjà moi qui les serrais, mes enfants. Mais là, ça sera pire encore. J'imagine pas leur avenir. On va les laisser malheureux, mais on va devoir les priver de tout, nos enfants. On peut pas vivre tranquille, en fait.
Et on sent que c'est un vrai sujet à Florence, cette disparition, mais qu'il y a aussi une certaine solidarité des habitants. On parlait tout à l'heure notamment de la battue citoyenne qui a eu lieu. Est-ce que vous auriez aimé, par exemple, participer à des recherches?
Si on est utile, oui. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, c'est vrai. Et c'est ça qui est bien, parce que enfin, il y avait quand même du monde pour les parents, pour les recherches. Enfin, moi, mon mari, il y a participé au battu, il a aidé. Enfin, moi, j'ai pas pu parce que j'avais pas le bon style vestimentaire, mais mon mari y a été, ma sœur y a été. Enfin, il y avait pas mal de monde quand même.
Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Et vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'émotions à Florence. Les habitants ne s'attendaient pas à une telle affaire dans un village de 6000 habitants.
Voilà, merci Isor de la Gorce avec Alain Branger en direct de Florence.
Pensons également aux parents d'Eliana, qu'on recherche toujours, qui viennent d'apprendre que cet homme était très connu des services de police de justice, même s'il n'avait jamais été condamné, mais qu'il y a eu plusieurs affaires, qu'il y a une nouvelle plainte pour viol qui vient d'être déposée, et que ce n'est pas terminé.
Ouais, vous imaginez qu'à la détresse s'ajoute maintenant une immense colère, un immense désarroi. Et vous êtes dans ce genre de situation, on le dit souvent, le processus d'identification, il est très très fort. On se met à la place des parents, on pense à Liana, qui peut être notre petite sœur, notre nièce, notre cousine. C'est extrêmement douloureux. C'est des parents qui doivent être meurtris dans une peur qu'on ne peut absolument pas décrire et qui auront besoin d'être vraiment soutenus pour tenir le temps que la vérité arrive.
On va voir où on en est aussi concernant les battus. C'est Suzy Bernard Ménégus qui aussi est à Florence, parce que les opérations de ratissage continuent et malheureusement le temps tourne.
Tout à fait, le temps tourne et là ça fait 4 heures que des gendarmes se sont remis à faire des battues. Alors d'abord dans les alentours de Florence et maintenant on est un petit peu plus loin, à quelques kilomètres. Là actuellement ils sont dans les bois, alors nous ne pouvons pas y accéder, ce sont des zones assez escarpées. Et ce qui en fait a lieu, c'est que c'est une quarantaine de gendarmes qui se déplacent en ligne. Ils s'alignent en peloton, ils font du ratissage et ils s'avancent progressivement. L'idée c'est de ne laisser aucune zone au hasard, tout est passé au peigne fin, à la fois physiquement et visuellement. Il y a d'ailleurs un chef de dispositif qui vérifie sur une tablette que tout est bien vérifié et que rien n'est laissé au hasard, car la moindre trace, le moindre indice pourrait permettre de retrouver Liana 6 jours après sa disparition.
Merci Suzy Bernard Ménégus à Florence d'Angers avec Nassim Gomri.
Jacques Morel, 6 jours après la disparition de cet enfant, qu'est-ce qu'on espère trouver avec ces battues organisées ?
Si cette jeune fille est encore en vie, si vous voulez, 6 jours dans la nature, c'est qu'on admet qu'elle est peut-être séquestrée, parce qu'il a quand même eu pas beaucoup de temps pour agir. Hein. On parle d'une heure et demie pendant entre le moment où elle est prise en compte et le moment où il réapparaît dans une autre réunion. Donc, si elle est séquestrée quelque part, il y a urgence à la retrouver. Pour le reste, faut trouver des indices, parce que vous savez bien que dans toutes les affaires où on retrouve pas, si malheureusement est décédé, le corps de la victime, les constatations, la police scientifique, tout ce qui est important dans le cadre d'une enquête criminelle ne peut pas se faire dans de bonnes conditions.
Si on trouve un indice important, est-ce que ça peut aider à faire parler Jérôme Barella, à le sortir de son silence, puisque c'est comme ça d'ailleurs que Nordal Lelandais a fini par parler.
Bien sûr.
On avait retrouvé une goutte de sang
dans sa voiture.
Quelques mois après. Hein,
bien sûr. C'est pour ça, si vous voulez, que son véhicule est actuellement à Pontoise, à l'Institut
où il va être
décortiqué et analysé, parce que en fonction du modèle de voiture, il y a maintenant de l'informatique embarquée qui permet de déterminer à quel endroit la personne s'arrête, à quel endroit elle redémarre. Est-ce que ça va correspondre aux informations qu'il a données? Parce que déjà, ces informations étaient nébuleuses. Est-ce que ça va correspondre à ce qu'il y a dans son portable? Parce qu'il faut mettre en concordance les données de la voiture et celles du portable. Mais bon, c'est d'autres gendarmes qui font ça, c'est des gendarmes mobiles. Les enquêteurs, eux, ils sont maintenant sur la piste, bien, les nouveaux dossiers, les gens qui vont se faire connaître. La médiatisation qui est faite sur vos chaînes va amener des parents.
Le fait qu'on donne son nom, ça peut aussi pousser à témoigner.
Mais oui,
peut-être des gens qui ont été victimes aussi.
C'est pas les enfants qui vont venir vers les parents, c'est les parents qui vont dire, mais dis donc, t'as été toi une soirée pyjama chez ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, l'enfant, si on lui tend une perche,
la parole peut
il va sûrement libérer ça va sûrement libérer sa parole.
Pauline Revena, simplement, les analyses sur la voiture, on les aura quand?
On nous disait fin de semaine, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre précisément. Évidemment, on va guetter ce retour d'analyse. Il y a les trajets de la voiture, je vous rejoins, et puis il y a l'ADN. Oui. Est-ce qu'elle était sur le siège avant? Est-ce qu'il y a des traces à l'arrière? Est-ce qu'il y a des traces dans le coffre? Ça ne dit pas la même histoire.
De toute façon, les gendarmes savent déjà, à l'évidence, si elle est montée dans cette voiture.
Oui.
C'est absolument certains. Souvenez-vous, dans l'affaire Le Landais, on savait dès le premier soir que Maëlys était montée dans la voiture, même si personne ne l'avait vue, parce qu'elle avait laissé une trace d'empreinte palmaire, une trace de main sur le tableau de bord.
Là, on a un
donc
témoin,
là,
de toute façon.
Là, ouais. les gendarmes disent à Le Landais, écoutez, elle est montée, voilà, il y a une trace. Et lui a une explication, elle dit, oui, mais elle est montée parce que je voulais lui montrer une photo de mes Malinois, donc mais dans la voiture, vous voyez. Et ensuite, fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'en dira pas plus. Il va falloir que la voiture qui était repartie revienne à Pontoise, à l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie, pourquoi là on la désosse complètement, et que dans le coffre on trouve sur un pas de vis du truc qui retient la roue de secours, ça a glissé dans le pas de vis, pas une goutte de sang, des traces de sang qui ont glissé sur le pas de vis.
Parce qu'il l'avait entièrement nettoyé, passé au Karcher.
Oui, il avait passé 45 minutes sur sa portière.
En ce qui concerne Jérôme Rabé.
Et 2h30 à nettoyer la voiture.
On rappelle qu'il est sous mandat de dépôt. Hein. Il a été incarcéré.
En détention provisoire.
Il est en détention provisoire. Pour le moment, merci d'avoir été avec nous.